Il n'y aura pas de sauvetage de dernière minute. Les SAD Valenciennes, une école d'art et design territorial, bicentenaire, fermera ses portes définitivement en juin 2025, à la fin de cette année scolaire. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes en direct depuis les SAD Valenciennes pour ce quatrième épisode du cycle de rencontres intitulé « Comment bien fermer une école d'art ?». Ce cycle a été mis en place pour témoigner de cette situation aussi tragique que banale. Nous ne sommes que les victimes collatérales du rouleau compresseur des politiques de gestion austéritaire néolibérale. Dans ces rencontres, qui rythment le dernier semestre de cette école d'art, nous explorons des thématiques en lien avec cette fermeture pour essayer d'y trouver du sens. Bref, nous vous invitons à prendre le temps de considérer cette situation, notre situation.
La dernière fois, pour le troisième épisode, nous l'avons consacré à la question du deuil. À cette occasion, nous avons accueilli Félix Casitani, afin de parler de ce deuil immense qui reste à faire, mais surtout, de quoi nous faisons deuil, exactement. Aussi bien ce qui est tangible, un lieu, ses équipements, une équipe, mais aussi des manières de faire, ses tentatives, nos idéaux qu'elle incarne, et ce qu'elle représente dans le paysage local, mais aussi national.
Pour ce quatrième épisode, nous questionnons ce qui fait que nous sommes tant attachés à cet environnement de travail, de vie, sa capacité à être un endroit dans lequel on peut faire, expérimenter, créer, rechercher, ensemble, en commun. Car lorsque les portes de cette école se fermeront sur nous toutes et tous, ce que nous devrons quitter et laisser derrière nous, ce sont des manières de faire ensemble, et ce que nous emporterons et conserverons, ce sera aussi ces manières de faire ensemble. À l'ESSAD Valenciennes, malgré cette fin programmée et à travers elle, nous tentons de faire vivre les pratiques artistiques dans nos territoires en les questionnant, et en entrant en correspondance avec elle.
Ce soir, Sébastien Bignec, Elisabeth Hale et moi-même, Florian Bulou-Fezard, nous évoquerons ensemble différents contextes dans lesquels se sont développées des manières de faire de la recherche en commun, avec nos deux invités, Pascal Nicolas Lestrat et Valérie Aubé. Merci à vous deux d'être présents à nos côtés ce soir, ça nous fait vraiment, vraiment chaud au cœur.
Pascal Nicolas Lestrat, tu es donc sociologue, professeur en sciences de l'éducation à Paris 8. Tu as récemment écrit « Faire recherche en commun », chronique d'une pratique éprouvée, publiée aux éditions du commun en 2024. Nous avons d'ailleurs donc emprunté ce joli titre pour le faire nôtre, un peu pour ce quatrième épisode, donc merci. Tu es également l'auteur de « Faire recherche en voisinant » en 2021, « Quand la sociologie entre dans l'action », « La recherche en situation d'expérimentation sociale, artistique ou politique » en 2018, ainsi que le travail du commun en 2016. Tu mènes des recherches-actions en complicité avec des collectifs et des activistes du domaine social et culturel, des collectifs hybrides, comme tu les décris, c'est-à-dire composés, donc à la fois d'habitants, habitantes, de professionnels, de l'éducation et du social, des activistes du quartier, des architectes et des artistes.
Et Valérie Aubé, alors je le précise tous les deux, on a le plaisir de travailler en ce moment pour l'organisation d'un colloque au-delà de l'innovation sociale, le design social, qui aura lieu en octobre 2025 au Québec, où d'ailleurs nous aurons toutes et tous qui sommes là ce soir le plaisir de nous y retrouver. Alors Valérie, tu es professeure à l'École des arts et cultures de l'Université du Québec en Outaouais, pardon. Tu as fondé la Tribu Graphique, une OBNL qui réunit et valorise des projets à visée sociale et culturelle. Tu as été directrice de l'école multidisciplinaire de l'UMAGE de l'Université du Québec en Outaouais de 2016 à 2019. Pardon, c'est Outaouais. Et depuis 2017, tu mènes une série de résidences en milieu scolaire au Québec. Par ailleurs, tu es également membre du conseil d'administration de la plateforme Social Design, que nous connaissons bien ici à Valenciennes. Tu as écrit avec Catherine Nadon le kit graphique graphisme citoyen à l'école primaire, dont nous parlerons tout à l'heure, donc qui est sorti en 2022. Et tu as écrit très récemment « Aborder la santé mentale autrement en milieu scolaire » publié très prochainement.
On vous laisse peut-être la parole pour se dire bonjour un petit peu. Après, on va ensemble peut-être décrire le déroulé de l'émission. Donc encore une fois, merci beaucoup d'être à cette table avec nous.
En tout cas, merci pour votre invitation. Votre invitation arrive à un moment un peu particulier pour moi et pour mon collègue Louis Starisky, puisque depuis quelque temps, on a une grande préoccupation concernant l'effet recherche, On pense que les faits recherche sont d'intérêt commun, que c'est une valeur démocratique et que ce serait peut-être le moment, au regard de la dangerosité politique de la période, voilà, de s'en préoccuper, au même titre qu'il faut se préoccuper des questions de soins, des questions d'espace, des questions de territoire. Et donc le faire recherche, on le formule en ces termes-là, comme question démocratique qu'on souhaite partager. Et donc l'ouvrage que vous me faites l'amitié de citer s'inscrit dans ce contexte-là. Un ouvrage où je souhaitais partir de ma pratique pour essayer de montrer ce qu'elle recouvre et pour ainsi inviter à la discussion, à l'échange. Et j'y tiens beaucoup en termes de méthode, de pouvoir le faire sur le plan de la pratique, à partir de la pratique, et pour là, effectivement, ouvrir les questions politiques, les questions institutionnelles, voilà, qui peuvent nous préoccuper. Donc voilà, votre invitation arrive dans ce contexte-là. Donc je suis tout à fait heureux de prendre la parole aujourd'hui avec vous dans votre école.
Merci pour l'invitation aussi. Mais moi, c'est vous fermez une école. Moi, je vais faire du recrutement jeune. Je vais dans les écoles primaires et au collège pour essayer d'implémenter en fait la pratique du design social à l'école sur des thématiques politiques ou sociales et d'essayer donc de l'introduire à des gens qui ne sont pas des designers. Donc l'enseignante, par exemple, comment elle peut pratiquer justement une certaine approche du design à l'école avec des élèves sans avoir les outils que nous, on apprend en tant que graphiste. Donc c'est aussi... un mouvement très particulier parce qu'au Québec, en fait, le design social est moribond, ça n'existe pas vraiment. Et donc, le colloque qu'on organise justement à la rentrée prochaine, l'automne prochain, c'est pour amener justement cette question du design social dans un pays qui en a bien, bien besoin, surtout avec les questions politiques aussi, notre proximité avec Trump, notamment actuellement, qui nous met vraiment dans une situation très particulière.
Donc, ensemble, nous allons décrire respectivement nos environnements de travail. En cherchant à établir un peu des parallèles, des points de comparaison entre ces modèles. Et on va évoquer aussi l'envie et parfois l'obligation de sortir des formats académiques proposés par la recherche universitaire, ainsi que la nécessité de construire un dialogue étroit avec nos écosystèmes sociaux et environnementaux. Nous décrirons également les menaces qui pèsent sur ces contextes de recherche, en tentant de dessiner les perspectives et les horizons joyeux et heureux pour conserver intact notre enthousiasme de faire et de chercher ensemble, de faire recherche en commun. Donc, est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu qu'est-ce qui caractérise en fait votre environnement de travail et de recherche sur comment en fait la question de la participation et le faire en commun est spécifique à ces environnements-là?
Je démarre, oui. Moi, j'ai une profession à trait d'union. Donc, je suis enseignant-chercheur et je tiens beaucoup à ce trait d'union. Et je défends le trait d'union comme une orientation possible pour la plupart de nos métiers, et en particulier concernant la recherche, éducatrice chercheuse, artiste-chercheur, architecte-chercheur, paysan-chercheur, etc. Ça, c'est une grande... Donc, un premier paysage de travail pour moi, c'est l'université en tant qu'enseignant. Et dans un contexte qui est celui de l'université Paris 8, université héritière du centre expérimental de Vincennes. Donc c'est une université qui s'est normalisée, mais pas tout à fait autant, ou en tout cas pas toujours aussi rapidement. Donc il y a ce contexte-là. Et un contexte en sciences d'éducation, et une science d'éducation qui ne s'occupe pas principalement de l'école, mais toutes les dimensions formatives et éducatives des pratiques sociales. Et là récemment, moi j'ai fait un choix assez radical, qui est de revenir avec les étudiants de licence 1, voilà. On accueille des jeunes issus de quartiers populaires, ils arrivent à l'université, ils sont en réussite, ils arrivent à l'université, il y a quelque chose de très très fort, et là souvent tout se passe mal parce que en tant qu'enseignant on rejoue des hiérarchies, on rejoue des effets de domination. Et donc j'avais une préoccupation de les rencontrer, de voir si on pouvait développer des pratiques et des pédagogies un petit peu différentes. Et je fais court, il y a un enjeu majeur pour eux qui est l'expérience d'écriture. Quand ils arrivent avec une expérience d'écriture qui a été déglinguée, qui a été abîmée par l'école, blessée, voilà. Et pourtant, cette expérience d'écriture est la leur, et c'est avec cette expérience d'écriture qu'ils vont pouvoir aussi porter leurs espoirs, leurs revendications, etc. Donc, je travaille beaucoup sur ces dimensions d'écriture, les amener à écrire sur des motifs qui sont immédiats. Le premier motif que j'ai introduit avec les licences 1, c'est un étonnement dans la semaine, un étonnement, et cet étonnement, est-ce que vous voulez bien m'en parler? Donc écrire et le faire en 2 lignes, ou le faire en 15 lignes, ou le faire en 2 pages. Quoi, voilà. Donc ça, c'est le premier paysage de travail. Et puis le deuxième paysage de travail, ce sont des recherches-actions à savoir des recherches en présence, des recherches en coopération avec les personnes concernées et dans un contexte qui est un choix, qui est aussi un choix de vie, donc dans des quartiers populaires, dans ce qu'on se représente comme les cités, voilà, qui accumulent voilà, des tensions démocratiques, sociales, psychiques, hein, de vulnérabilité, et puis écologiques. Voilà. Et dans ces contextes-là, comment garder l'espoir de la recherche, comment garder l'espoir aussi du vivre, voilà. Et c'est des quartiers dans lesquels il y a une énergie de vie absolument incroyable. Pendant la période Covid, ce qui a tenu dans les quartiers, c'est effectivement l'entraide, la solidarité, en particulier des femmes, mais aussi des jeunes. Et donc, d'une certaine manière, la recherche arrive à cet endroit-là. Donc, quand on arrive pour faire recherche en coopération, d'une certaine manière, le commun et la coopération, il est actif, il est vivant. Et donc, à nous de faire en sorte que la recherche soit un plus parmi tous les plus qui leur sont nécessaires. Voilà, parmi le soin, la solidarité, des conditions de vie un peu plus satisfaisantes, etc. Donc, ce sont mes deux paysages d'activité aujourd'hui, avec plein de traits d'union qui naviguent entre tout ça, quoi. Voilà.
Moi, ce trait d'union, je l'ai aussi, puisque c'est professeur-chercheur. Nous, on pratique, en fait, l'école des arts et cultures. On fait de la recherche-création, qu'on appelle, en fait. Et c'est de la recherche, dans mon cas, action, parce qu'en fait, c'est une recherche située. Moi, je l'ai implémentée à l'école, avec le désir, justement, de replacer un peu les enfants comme des citoyens à part entière, puis de leur donner une plateforme pour s'exprimer, en fait, sur des sujets complexes pour lesquels ils ne sont pas souvent sollicités. Et puis, c'est surtout aussi d'amener à l'école une conception de la co-création, de la co-construction, surtout dans la pratique des arts, ce qui n'est pas du tout fait à l'école. Ils travaillent individuellement, chacun fait ce qu'il a à faire. Puis les enseignants qui enseignent la pratique des arts à l'école, ben, ils ont une formation de 2 heures dans leur formation pour enseigner les arts. Donc ça dépend de leur volonté, comment ils veulent aborder les choses. Donc, et puis ce qui est intéressant, ben, c'est se déconstruire un petit peu ces environnements pour les reconstruire autrement, en commun avec les enseignants et les élèves aussi. Et c'est transformer aussi les hiérarchies à l'intérieur de l'école elle-même. Quand on arrive comme ça, on se au même niveau, tout le monde est au même niveau, même les élèves et les enseignants changent leur perspective, les enseignants embarquent aussi avec nous dans le projet, donc ça questionne beaucoup de choses, ça remue beaucoup de choses, ceux qui participent pas au projet sont jaloux d'ailleurs dans les autres classes parce que ça change vraiment quelque chose à la fin du processus. Et puis c'est ça, c'est de donner une voix aux jeunes, de donner une voix aux enfants différentes sur des problématiques vraiment importantes, actuelles, souvent on choisit des problématiques actuelles pour les faire s'exprimer. Et puis c'est produire des dispositifs graphiques dont eux sont maîtres d'œuvre et que eux vont pouvoir utiliser même quand nous graphistes on sort de l'école en fait. Donc moi c'est vraiment mon terrain de jeu actuel, cette idée aussi de co-création, de co-construction qui transforme un peu l'univers de l'école tel qu'on le connaît actuellement.
On va en profiter aussi pour parler de l'environnement de travail de l'ESAD de Valenciennes. On a toujours été en fait une école assez petite, enfin dans l'histoire récente, on ne va pas retracer les 200 plus années d'histoire de l'ESAD, mais on a été d'environ 100 étudiants plus ou moins quand il y avait les 5 années. Donc je rappelle, hein, actuellement à l'ESAD de Valenciennes, on n'a plus qu'une promo les 3e années, donc on a une vingtaine d'étudiants et étudiantes actuellement dans l'école. On le précise parce qu'on pense quand même que ça se joue beaucoup. On se connaît réellement toutes et tous. On a un rapport personnel, quoi. Et de plus, tous les projets sur lesquels nous travaillons sont de manière vraiment très organique, directement liés à notre territoire et à ses habitants et ses habitantes. En règle générale, dans notre cours commun, donc on a nommé l'anti-école. Donc une petite pensée, Pascal, pour ce que tu nommes les coulons langagiers. J'aimerais bien qu'on en parle, parce que je me rends compte qu'on a vraiment tendance à le faire. En tout cas, tous les sujets de recherche sont définis de manière collégiale et horizontale, et par conséquent, il n'y a jamais de spécialiste, en gros, pour mener la recherche. Et le pragmatisme, c'est ce qui règne pour l'ensemble du groupe, donc enseignants et étudiants et étudiantes confondus. Ça veut dire qu'il faut accepter que l'enquête reste à faire pour tout le monde Et ça peut, je pense que c'est assumé comme une position peut-être assez inconfortable pour les enseignants et enseignantes. Et qu'il faut l'embrasser et l'accepter, en fait, que, on sait pas forcément de quoi on parle, alors que on nous fait croire qu'on est obligé d'être dans cette position dominante de tout savant, ce qui est complètement irréaliste. Et pas du tout notre cas, en tout cas, mais dans le meilleur sens du terme. Et en tout cas, ce terme d'enquête, nous l'employons pas beaucoup, même jamais, mais pourtant il revient souvent par la force des choses. Et au fur et à mesure des années, on a été emmené un peu à considérer l'enquête collective comme un principe vraiment fondateur pour mener une démarche en design éco-social. L'investigation, en gros, dans le point d'origine, est une interrogation, un doute, une inquiétude parfois, et qui déclenche pour chacun et chacune un processus de recherche qui trouve son point d'équilibre dans le partage d'informations et de connaissances.
On est pleinement conscient que la méthodologie utilisée, de la méthodologie qui a été utilisée une fois que le processus d'enquête a été achevé, de manière rétrospective, on peut regarder par quelles étapes on a passé dans cette enquête. La rencontre des actrices de terrain, la récolte de données, d'informations, les outils de captation, tout ça, c'est des méthodes que nous pouvons déployer à nouveau et appliquer à d'autres terrains d'investigation. Cette expérience, du coup, elle nous a montré la richesse d'une recherche on a compris qu'en fait, elle résidait pas tant dans une méthodologie figée, qu'il s'agirait de reproduire rigoureusement, mais dans une attitude à adopter et notre capacité, du coup, à s'adapter et à co-construire avec des actrices de terrain, et ce qui nous permet d'aborder des enjeux plus larges. Donc, on essaie de développer une méthodologie en fonction d'un sujet, d'un terrain d'étude. C'est aussi une manière d'éviter d'appliquer des recettes un peu prêtes à penser. Et par là, ça nous permet de nous rendre un peu attentifs à un contexte, à un territoire et aux démarches. Cette conception du travail collectif non spécialisé qu'on tente d'appliquer, elle a tout à voir avec une démarche d'éducation par le dialogue et par la correspondance. Peut-être pour donner un peu des exemples aussi. Là, par exemple, dans ce travail... dans ce cours commun de l'anti-école qu'on a avec Elisabeth, on travaille sur les abeilles à travers un travail de correspondance qu'on mène avec différentes personnes qui ont des pratiques autour des abeilles. Je dis des abeilles parce qu'en fait, d'une certaine manière, ça fait 2 années qu'on travaille sur ce sujet. Et dans un premier temps, en fait, on a été contacté spontanément par un musée, un petit écomusée dans l'Aisne, le musée de la vie rurale et forestière de Saint-Michel-en-Thiérache, qui avait une collection de ruches. Donc on a travaillé à essayer de scénographier et de commissarier aussi pour développer un propos autour de ces ruches. Et par déplacement, on s'est aussi posé la question, pas nécessairement que de l'apiculture, mais des pratiques autour... qui sont, on va dire, en marge de l'apiculture, au sens de penser la ruche comme un outil de production. Donc ça, c'est des choses qu'on fait aussi avec d'autres enseignantes qui sont ici, Laurence Ducas et Jean-Baptiste Talma l'an dernier, Léa Barbier aussi cette année, qui pense du coup des ruches refuges. On a aussi travaillé sur la patate.
Oui, l'idée de la patate, en fait, c'est arrivé juste d'une discussion avec les étudiantes. Enfin, c'est finalement pas beaucoup plus que ça. On se disait, tiens, il nous faudrait un sujet qui concerne à peu près tout le monde, qui a un rapport, une sorte d'histoire qui nous concerne toutes et tous pour des raisons différentes et qui, en plus de ça, est intimement liée avec le territoire dans lequel nous nous trouvons. Donc c'est vrai que on a aussi travaillé sur la Lune un peu de la même manière. En fait, c'est des discussions qui arrivent et bon, nous, on les contrôle pas. On essaie de pas trop diriger le sujet. C'est sûr que c'est génial qu'on s'appelait à tout le monde. Et pour le moment, on a toujours réussi à trouver un sujet qui motivait l'ensemble du groupe. Mais c'est le hasard d'une journée, d'une discussion, d'une actualité qui peut parfois va animer 2 ans de recherche. Donc,
Donc c'est vrai que le ressort, c'est aussi d'essayer de mettre en place des choses qui sont plutôt de l'ordre de la, de l'écoute, de l'attention, de la circulation de la parole. Et après, sur le tas, bah, comme on le disait tout à l'heure, c'est, on n'est pas spécialisé. Donc, en fait, à plusieurs, on mène une enquête. Donc, des fois, ça part un peu dans tous les sens. Donc, quand vient le moment un peu de montrer ça et de publier des choses, c'est un peu labyrinthique. Et c'est le cas, par exemple, actuellement sur l'édition qu'on mène de correspondance sur les abeilles. Mais en même temps, c'est assez joyeux de ne pas savoir nécessairement où on va. Voilà.
Et donc, on parlait effectivement de dialogue de correspondance. Et, Elisabeth et Sébastien, on peut relater ce qu'on fait au sujet des différents sujets, hein, les patates, aussi bien que les abeilles. Donc, ce qui nous a aussi intéressé dans vos deux travaux, c'est le médium par lequel vous en passez. Toi, Valérie, on l'a dit, tu as créé avec Catherine Nadon, alors si je ne me trompe pas, qui est professeure en didactique des arts visuels à l'Université du Québec en Outaouais. N'est-ce pas? Alors, je vais faire un kit graphique qui est dédié aux enseignantes et aux enseignants en école primaire et qui propose un ensemble d'ateliers, d'outils et d'informations pour la pratique du design social. Donc, on a un peu parlé tout à l'heure. Ce kit, il permet aux élèves de se sensibiliser à une pratique des arts engagée pour s'exprimer et expliciter leurs opinions sur une problématique sociale actuelle. Alors, tu expliques d'ailleurs, pour te citer...
Par leur voix unique et collective, ils contribueront à l'innovation et au changement sur une thématique ou à un sujet phare du moment. Le kit relève le potentiel de la pratique des arts engagés dès le troisième cycle du primaire. Il est constitué d'un livret, ressource à l'intention des enseignantes et des enseignants, proposant une série de 8 ateliers avec l'option de divers scénarios quant à la réalisation complète ou sélective selon une logique propre au dispositif proposé.
Oui, donc on l'a dit, ça soulève la question des médiums, aussi et surtout des publics. Vous en avez parlé tous les deux, peut-être que vous pouvez le développer après, que ce soit en école primaire ou toi en... Alors, tu dis en quartier défavorisé, j'ai noté que dans le livre, tu nuances un petit peu cette expression de quartier défavorisé. Donc, nous, à l'école, on est beaucoup attachés, comme l'a dit Sébastien, aux pratiques éditoriales, ne serait-ce parce qu'elles permettent de prendre du recul sur des moments d'expérimentation et de production. Donc, on a trouvé comme ça un point de convergence dans une forme de pratique qui peut être resituée. Et pour Pascal, c'est le fanzine, qui est une forme de publication, un média libre et autoproduit que tu développes à travers un format que tu nommes Acazine. Peut-être si tu peux après nous expliciter... pourquoi ce déplacement de fanzine à Acazine, qui est un outil de recherche académique, et qui, c'est là où moi ça m'a intéressé, qui pourrait être le lieu de réception d'une recherche que le milieu académique, on va dire majoritaire, comme tu le nommes, laisse traîner derrière. Et tu écris des délaissés intellectuels ouvrant donc la possibilité d'une recherche du réemploi et du recyclage. Donc un peu, si vous pouviez... nous expliciter chacun, chacune, en quoi la casine pour l'un ou le kit pour l'autre peut-il faire, comment on pourrait nommer, un entre-deux, un intermédiaire de partage et de mutualisation des savoirs qui est souvent réservé à un groupe minoritaire.
Mais déjà, pour reprendre le titre de Nicolas, faire recherche en commun, pour moi c'est essentiel de faire de la recherche. On parlait de pragmatisme tout à l'heure, il faut qu'il y ait des outils de diffusion qui servent aux gens pour lesquels on les fait. Donc déjà, moi, mon association avec ma collègue en didactique des arts, pour pénétrer le monde scolaire, eh bien, il fallait aussi réadapter tout notre langage graphique, notre jargon, etc., pour que ça puisse servir à quelque chose. Donc on a fait des résidences de 8 mois à peu près dans cette école-là, et en fait, après, il faut prendre du recul. On était 3 graphistes, 2 chefs, des assistants de recherche, etc. Mais quand on part, ben, l'enseignante, elle est seule avec ses élèves. Et comment elle peut mener des ateliers donc, en graphisme sans avoir suivi une formation en graphisme. Donc ça paraît un projet un peu fou, mais donc même la forme même du kit graphique, si vous le remarquez, pour ceux qui peuvent le voir là, il est fait avec une reliure à boudin. Pourquoi ? Parce que peut être mis en aplat, être photocopié facilement, être transférable facilement aux autres enseignants. Au départ, j'avais dit de faire faire un coffret à la fin de l'expérience, un beau coffret qui aurait été quand même un objet presque muséal avec les crayons, les papiers qu'on aurait utilisés. Puis en fait, en discutant justement avec les enseignants, ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'un coffret? Il va se perdre, les objets vont disparaître. Et là, toute une réflexion. Donc, OK, nous, on veut que ce soit, il faut que ça serve à quelque chose. Donc, l'idée, c'est que ce soit diffusé le plus possible à ces communautés-là. Donc, je pense que le médium, c'est ça. Moi, pour moi, faire de la recherche création, puis de la recherche action, c'est que quand moi, je pars d'un milieu dans lequel je m'insère, cette recherche-là, elle peut être utilisée. Il reste quelque chose, les gens peuvent s'en saisir et le faire continuer à le faire évoluer. Donc, c'est justement parler un peu de statut tout à l'heure. Moi, j'ai le même statut que la personne enseignante et les élèves. Je me mets au même niveau. On est tous au même niveau. Tu parlais tout à l'heure avec vos élèves, vos élèves ici, oui, vous êtes étudiants, vous êtes tout le monde et on est dans les tentatives. Nicolas pourra en parler là, cette sociologie des tentatives. Je trouve ça super intéressant. Moi, j'apprends autant de mes étudiants que mes étudiants apprennent de moi. Je me situe au même niveau. Il n'y a pas de hiérarchie informelle, mais je pense qu'au niveau de la recherche, surtout le type de recherche qu'on fait engagée, on a cette posture très particulière où cette diffusion et le médium qu'on utilise pour diffuser doit être accessible. Sinon, ça reste de la recherche sur une tablette dans une bibliothèque. Pour moi, ça n'a aucun intérêt. Donc, je pense que le médium et l'outil de diffusion est aussi important que la matière de la recherche, en fait.
Peut-être, juste en amont, quand j'étais en train de vous écouter sur vos manières de faire recherche et donc ces dimensions du processus, moi, ce contre quoi je suis vraiment en bagarre dans les sciences sociales, c'est que les sciences sociales introduisent beaucoup trop de préalables. Et les préalables, c'est une prise de pouvoir sur les situations. Où le chercheur vient dire, le chercheur hégémonique, dominant, il vient dire, on ne peut pas commencer si telle situation, si telle méthode, si tel cadre, etc., etc. Donc c'est une prise de pouvoir. Donc il faut arriver à se défaire de ces préalables et de laisser vivre des antériorités, ce qui est tout autre chose. Et donc quand je suis au travail, j'essaie de l'être sans préalable pour justement pouvoir rencontrer. Voilà. Et puis il y a des antériorités qui font que voilà, on vient pas de nulle part et que etc. Donc ça c'est vraiment des dimensions importantes. Et puis dans notre travail, parfois un peu aussi en provocation avec nos collègues, c'est de dire on commence sans préalable et on termine sans résultat. C'est-à-dire qu'on essaie de défaire la réification du résultat, en sachant que quand on est sur ce type de recherche en processus, il se passe énormément de choses. Ça produit énormément de choses. Et on a plutôt une difficulté à prendre la mesure de tout ce qui se passe. Mais tout ce qui se passe, on n'a pas envie, là aussi par effet de pouvoir, de le ressaisir dans une unité qui est l'unité qui est la nôtre. C'est-à-dire le rapport, l'article, etc. Et donc à l'issue de nos recherches, on met à disposition une pluralité de textes, une pluralité de productions, des visuels, etc. C'est cette pluralité qu'on considère comme le rendu de la recherche. Alors sur la question des écritures, la petite histoire est assez sympa, je peux la faire vite. On est au travail dans un quartier en périphérie de Dunkerque, et c'est un quartier dans lequel un collectif s'est constitué pour réaménager le quartier qui a été vraiment laissé à l'abandon. Donc il y a des chantiers de rééquipement du quartier en bancs, en tables, en jeux pour enfants, etc. Et donc on est travaillé avec eux. Et pour nous, il y a une première question qui se pose, c'est arriver à inscrire notre travail dans la même temporalité, et y compris l'écriture. Alors qu'en règle générale, le chercheur, à nouveau prise de pouvoir, il s'octroie une temporalité différente. Et donc effectivement, il va écrire longtemps après, etc. Donc on avait un enjeu d'inscrire nos écritures dans la temporalité des chantiers à l'échelle d'une semaine, de 10 jours. Puis deux, nous on arrive de Paris et on supportait pas l'idée qu'on était avec eux, puis après on repart en TGV à Paris, puis on écrit depuis Paris. Voilà. Donc il fallait dénouer cette question-là. Et donc c'est Louis Starisky qui a cette intuition assez géniale, puisque c'est la première fois en contexte de recherche que ça se fait, de dire bon, on va écrire la recherche en fanzine. Voilà. Ce qui produit plusieurs choses intéressantes, à la fois en termes de temporalité. À l'issue des chantiers, il y avait des bancs, des jeux pour enfants qui avaient été produits, et le fanzine avait été produit. Voilà. Et on tenait, parfois il y avait un seul, tellement c'était ric-rac, mais il sortait. Voilà. Et puis, deuxième idée, c'était produit sur place avec les personnes. Et à partir de là, on découvre que bien évidemment, dans les quartiers populaires, il y a des écritures. Voilà. Et que bien évidemment, on peut aussi hybrider, et que le visuel, le dessin, la bande dessinée, etc. Et là, je finis sur deux enjeux, c'est-à-dire. Donc nous, on écrit la recherche dans ces termes-là, voilà. Et là, on assume la coopération jusqu'au bout, Alors qu'en règle générale, la coopération s'arrête au seuil de l'écriture, qui est la reprise de pouvoir du chercheur. Et moi, le problème, c'est que je suis statutaire à l'université. Et comme je le dis, je suis obligé de revenir à l'université pour remettre tout ça en discussion. Et c'est là qu'émerge ce séminaire sur les acasines, et qui me pose problème. C'est-à-dire, pourquoi les universitaires, lorsqu'ils saisissent d'une pratique sociale, le fanzine, réinventent le terme, voilà, pour le transformer en acasine. Voilà. Donc acasine, c'est un terme qu'on n'utilise pas. Mais c'est effectivement un terme qui a été mobilisé pour faire exister un séminaire et faire en sorte que les fanzines trouvent leur place dans l'espace institutionnel. Donc une espèce de négociation, compromission en termes langagiers. Mais effectivement, le déplacement, il fait sens. Hein. C'est une reprise de pouvoir de l'institution sur une pratique sociale. Voilà. J'arrive à faire entendre plutôt bien le fait que nos écritures de recherche puissent être partie prenante du fanzine, puissent cohabiter avec d'autres écritures. Donc ça, c'est une première étape réformiste de bonne entente avec mes collègues. Mais moi, la deuxième étape où je suis, c'est que c'est le fanzine qui est l'écriture de la recherche. Et donc, du coup, là, on est obligé de prendre en compte une écriture de la recherche qui est hybride, qui est différenciée, qui intègre des expériences langagières, etc. Et là, on n'est pas prêt, quoi, dans le métier. Et là, moi, j'ai toujours en tête un passage très fort de Bell Hooks, qui raconte sa trajectoire d'arrivée à l'université. Et pour être à l'université, elle renonce à sa langue, c'est-à-dire le vernaculaire noir des quartiers, voilà, jusqu'à un moment où elle prend conscience de ce qu'elle perd, et elle réintroduit le vernaculaire noir dans ses écrits. Et donc au début, elle est corrigée systématiquement, jusqu'au moment où elle a fini par obtenir que cette hybridité de langagière soit vivante et active dans ses écrits, quoi. Et donc là, on est, nous, dans cette préoccupation-là, comment introduire cette pluralité langagière au cœur même de l'écriture de la recherche, quoi. Donc le fanzine est une des hypothèses qu'on met au travail dans cette... Voilà.
Mais chez nous, c'est une vraie bataille, même pour nos étudiants en recherche-création, de produire des résultats de leur recherche autrement que le truc classique en Word de 12 points. Les bibliothèques n'acceptent même pas des objets différents au niveau de la recherche-création, qui soit autre qu'un document basique, comme toutes les recherches universitaires théoriques. Donc ça, il y a un travail énorme à faire, même au niveau de l'institution, en tout cas nous, universitaires au Québec et au Canada en général, pour déconstruire cette idée-là aussi, même au niveau des étudiants qui remettent leur diplôme, de pouvoir produire, ça peut être juste de la vidéo ou d'autres types d'éléments, d'autres médiums utilisés ou d'autres formes d'écriture de la recherche, comme tu mentionnes, Nicolas. Ce serait vraiment important, surtout quand on fait de la recherche-création puis de la recherche-action engagée. Il me semble que ça passe aussi par des manières de rendre compte de la recherche autrement.
Peut-être justement par rapport à cette hybridation-là des médiums, ça peut rejoindre une idée qui nous avait marqué à la lecture justement de faire recherche en commun à propos de la transdisciplinarité, cette idée de transdiscipliner, enfin, quelque chose aussi de indiscipliné, enfin, on trouvait cette idée, en tout cas, je trouvais cette analogie assez intéressante. Et on a fait... En tout cas, c'est un rapprochement avec une sorte d'attitude plutôt de l'anthropologue, ou en tout cas une attitude qu'on qualifierait ou qu'on pourrait qualifier d'anthropologique. Et ce qui nous semble certain, c'est que la notion de transdisciplinarité, est vraiment très répandue ces 10 dernières années, voire plus, dans les articles et publications qui traitent justement de la recherche en design. Et toutes ces perspectives académiques, parce que bon, c'est un autre sujet, mais le design aussi cherche très fort, en tout cas, à trouver sa place dans le milieu universitaire, afin aussi à inscrire des thèses. Enfin, on va pas trop s'attarder là-dessus, mais en tout cas, c'est une réquisition dans la recherche en design aussi. Et l'emploi de ce terme pouvait être interprété comme une sorte d'envie de décloisonnement des méthodologies, une volonté de faire synergie et de faire renoncer justement les différents mondes académiques universitaires. Cette transdisciplinarité était porteuse d'espoir pour la recherche en design, car c'est le design même, en fait, finalement, qu'on appelait à l'aide pour penser ce décloisonnement, de penser peut-être des nouvelles méthodes, des nouveaux médiums, moyens. Et si on s'attache justement à la conception du design héritée de Moholy Nagy, donc de faire du design, c'est penser en termes de relations. On essaie de réfléchir à quoi ça ressemble pourtant aujourd'hui.
Oui, en fait, ce qui nous a intéressé aussi dans Faire Recherche en commun, c'est le fait que, Pascal, tu inscris dans l'introduction en fait à ces chroniques de recherche la volonté, tu le disais en fait, d'indiscipliner la recherche, en tout cas la recherche en sens social, en te demandant ce qui pouvait advenir en fait du statut des chercheuses dès lors qu'en fait ils s'engageaient dans cette voie d'indisciplinarité. Et on le ressent en fait comme quelque chose qui est appelé par la nécessité, parce qu'en fait il y a une urgence à faire en commun, vraiment quelque chose d'assez fort et qui répond en fait à des enjeux que tu qualifies d'épistémo-politique. C'est quelque chose sur lequel tu reviens beaucoup. L'épistémo-politique, du coup, quelle politique du savoir s'engage dans une discipline dès lors qu'elle assume sa contribution en commun. Donc on a noté chez toi ce désir de repenser le cadre des pratiques de recherche pour faire davantage de place à des dynamiques de co-construction. On se permet aussi de souligner que tu n'exprimes pas, enfin c'est ce qu'on a cru voir, lire, déceler, que tu n'exprimais pas le souhait, le besoin de faire valoir un nouveau modèle qui irait à l'encontre de l'existant, mais que tu souhaitais davantage de démarches apparentées à de la recherche-action, de la recherche-création. Tu souhaitais qu'en fait ces modèles-là voient davantage le jour et puissent être instituer ou en tout cas exister en fait en marge de l'écosystème de la recherche, mais qui soit dans l'écosystème malgré tout de la recherche.
Moi je pars sur ce qu'on partage dans la collégialité de recherche. Alors, la collégialité de recherche, c'est bon, tout ensemble de chercheurs, praticiens chercheurs, voilà, où on se retrouve depuis de nombreuses années. Bon, j'ai introduit ce terme de collégialité, parce que moi je suis issu de l'extrême gauche et les collectifs, j'ai un petit peu donné, donc je m'en méfie, l'idée de collégialité, un côté un peu plus flou, un peu, voilà. Mais avec une texture très solide qui est celle de la coopération. Donc notre préoccupation dans la collégialité, c'est les nécessités du moment contemporain. Les nécessités, elles sont là. Les nécessités démocratiques, elles sont là. Les nécessités écologiques, elles sont là, etc. Et comment au sein d'une institution comme l'université, on vit en nécessité. Et il se trouve qu'on ne vit pas en nécessité et que le fait d'être dans l'institution nous semble, bien à tort, nous protéger d'un certain nombre de questions. Voilà, donc cette envie de faire revenir les nécessités et de penser la recherche depuis ces nécessités. Et donc là arrivent des enjeux, mais qui sont aussi partagés par l'alimentation, la paysannerie, qui sont partagés par le soin, qui sont partagés par l'architecture, par le design, qui sont partagés par la recherche. C'est-à-dire, dans ce moment de forte nécessité, depuis ces nécessités, comment arriver à penser et à faire évoluer nos pratiques spécialisées. Voilà. Alors, moi je pourrais avoir deux attitudes, c'est-à-dire l'attitude du chercheur ou de l'intellectuel engagé, et donc je sors un court essai sur transformer l'université. Voilà. Donc c'est très joli, voilà. Ça fera quelques échos, etc. Et ça me paraît assez peu productif, voilà, en regard d'une histoire où il y en a eu beaucoup. Et donc là, nous on a une proposition de méthode qui est tout autre, c'est effectivement sur le plan de nos activités, depuis nos activités, de voir comment on peut arriver à réengager et comment il peut y avoir des logiques de micro-réinstitution, hein, réengager de l'instituant sur le plan des activités. Donc ce qui oblige à franchir ce seuil, c'est-à-dire que lorsqu'on est dans l'activité de recherche, au cœur de l'activité de recherche, on joue aussi les questions politiques, les questions démocratiques et les questions écologiques. Voilà. C'est-à-dire que on les éprouve. D'où les formulations de l'éprouver que j'introduis assez régulièrement. Donc ma proposition aujourd'hui que je tente de discuter avec les collègues, hein, c'est effectivement de se ressaisir des questions, mais sur le plan de notre activité. Parce que je pense que si on s'en saisit dans la globalité du fonctionnement de l'institution, on n'arrive pas à avoir prise. Et à chaque fois, on se fait récupérer dans ce mouvement d'ensemble, mais effectivement de pouvoir le faire depuis l'activité. Après, juste je conclue là-dessus, ça se rapporte à un idéal que je pratique depuis longtemps, qui est effectivement l'apport fort des dimensions micro. Donc le micro, c'est pas l'inverse du macro. y a une logique d'intimidation réciproque entre les deux qui est catastrophique. Le micro, c'est un registre d'activité qui est un registre en intensité. Voilà. Le micro, il y a comme ça de l'énergie. Au niveau micro, on prend conscience des choses. Voilà. D'où l'importance d'essayer de réfléchir les questions démocratiques et écologiques à ce niveau micro pour que les processus de conscientisation puissent avoir lieu et que cette énergie puisse être au travail. Et après je ne sais pas. Voilà. Mais je pense qu'il faut amorcer, qu'il faut engager. Et il me semble que c'est le bon plan. Ouais. Le bon plateau, pour le dire comme Guattari, pour possiblement tenter de le faire. Quoi.
Moi, je pense qu'en design, tu sais, c'est notre domaine. Moi, je pense que le futur du design, c'est être en contexte. Moi, je ne vois pas faire de recherche en design sans être dans un contexte particulier. Puis pour parler des questions, nous, on parle beaucoup de bricolage méthodologique. Tu sais, c'est-à-dire qu'on n'a pas, on ne s'inscrit pas dans une veine. Selon les contextes, on va piger partout. Mais quand tu parlais d'écologie, ben, par exemple, justement, le projet du King Graphic, où on s'est saisi, il y avait eu une tornade qui était peut-être dans notre région 2 semaines avant qu'on commence notre résidence. Et puis on s'est saisi de cette idée-là de la tornade pour parler des changements climatiques avec les jeunes, puis ça a déboulé sur plein d'éléments, et c'est vraiment en vivant cette thématique-là, dans ce contexte-là, à un moment donné précis de l'actualité, que ça nous a permis de mener cette recherche, puis d'avoir vraiment des résultats incroyables au niveau des jeunes. Puis en plus, ce qui était intéressant, c'est que notre insertion dans l'école a permis, en fait, donc on s'inscrivait dans le programme de pratique des arts à l'école, qu'on appelle au Québec. Et bien cette pratique qu'on a réalisée avec eux au niveau de la thématique des changements climatiques, elle a traversé les autres matières dans l'école. Donc les changements climatiques, on en a parlé en mathématiques, on en a parlé en français. Et d'ailleurs, l'enseignante en art qui travaillait avec nous a travaillé avec ce qu'on appelle le titulaire là-bas, c'est-à-dire l'enseignant qui enseigne toutes les matières à l'école primaire. Et il a réalisé, il était rendu dans sa matière de français, dans le programme de français, à l'étude des poèmes, de la poésie. Et donc, il a fait, les enfants ont produit, ont personnifié en fait la tornade à travers des tâches. Donc, on a aussi travaillé l'erreur. Qu'est-ce que c'est une erreur et comment tu peux créer quelque chose d'intéressant avec l'erreur, ce qui est complètement inusité dans une école aussi quand tu fais un projet artistique. Et là, ils ont créé des tornades, donc personnifiées, chacun personnifiait cette tornade, chacun donnait un nom à sa tornade. Et le prof, avec les enfants, a fait des poèmes, chacun a créé un poème sur les tornades. Et il y en a un qui a créé un poème qui s'appelait Donut, parce que c'était en 2019 quand Trump a été élu pour la première fois. Et de lui-même, il avait 10 ans et il a créé la tornade, il a personnifié sa tornade en Donald Trump. Et il a donc décliné un poème que j'ai pas avec moi, dommage pour vous le lire, mais un texte incroyable donc sur comment il associait ce personnage-là à la tornade qui détruisait nos maisons, etc., etc., etc. Donc moi, je considère que la recherche en design, tu parlais de, tu sais, comment on veut rendre le design au niveau de l'institution universitaire beaucoup plus, qu'on le reconnaisse plus. Moi, je le vois uniquement dans une recherche qui est contextualisée, une recherche de pratique avec les gens pour se mettre au même niveau et avancer justement dans cette réflexion sur comment le design peut agir, comment le design peut transformer. J'ai horreur du mot innovation sociale parce que pour moi c'est tellement galvaudé. Je préfère transformation sociale parce que ça nous rend en tant que graphiste et designer dans l'action de faire, en fait, de faire avancer des choses. Donc je pense que la seule manière de faire recherche en design, pour moi, c'est une recherche qui est en contexte avec les gens, pour les gens. Et surtout, comme je disais tout à l'heure, pour qu'une fois que nous, on se retire en fait de ce terrain de recherche, ça continue en fait. Donc, c'est ça.
Oui, d'ailleurs, enfin, on l'aura compris, tu nous viens du Canada et du Québec. Et ce que je voudrais savoir, je pense qu'il serait intéressant aussi d'expliciter, on en a souvent parlé tous les deux quand on préparait le colloque, et c'est aussi un peu l'objet du colloque, donc qui s'appelle Au-delà de l'innovation sociale, le design social, justement, parce qu'on je pense qu'on dans le groupe, on a tous horreur de l'innovation sociale. Et on a beaucoup parlé du pourquoi amener la question du design social, de la questionner au Québec. Alors toi, tu dis que le design social est inexistant au Québec. Ceci dit, moi, je voudrais savoir, parfois, tu précises aussi qu'il peut être appréhendé par des pratiques dans le milieu associatif social, par des collectifs qui sont marginalisés. en tout cas souvent, tu me dis tout à l'heure, fortement dépolitisés. J'aimerais savoir, il y a un terme que tu utilises qui est le graphisme citoyen. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de ce que tu nommes le graphisme citoyen? Est-ce qu'il est, tu as dit tout à l'heure, un design au service du changement social?
Mais le graphisme citoyen, parce que premièrement, j'ai fait une table ronde il y a quelques années ici en France avec la relève du design graphique. Je m'interrogeais sur où était rendue en fait la deuxième génération après mai 68, les grappus de ce monde, etc. Qu'étaient devenus en fait les jeunes graphistes engagés en France. Et j'avais posé la question, j'ai dit, justement, quand je vous parle de graphisme citoyen, je me dis, mais nous, on est graphiste, mais on est citoyen dans tout ce qu'on fait. On n'est pas juste citoyen parce qu'on est graphiste. Le graphisme citoyen, pour moi, c'est vraiment considérer le... Comment je pourrais dire ? C'est un peu, justement, faire descendre l'idée du design graphique fait par des designers graphiques, parce que je pense que tout le monde peut faire du graphisme citoyen en s'engageant personnellement. Au Québec, quand je dis que c'est moribond, pratiquement, le design social, c'est que dans l'histoire du Québec, en fait, il n'y a pas vraiment de graphistes qui se sont engagés politiquement ou socialement. On a eu des référendums pour l'indépendance du Québec, mais il y a eu des productions anonymes, mais pas de production graphique faite par les graphistes eux-mêmes. Mais le graphisme citoyen, je le situe surtout à l'école primaire ou secondaire. Ce que je trouve intéressant, c'est de positionner les enfants justement comme des citoyens à part entière. Au colloque, on a invité d'ailleurs, au colloque qu'on organise cet automne, on a invité Alain Kerlan, qui est un philosophe français qui travaillait à l'université de Nîmes et qui lui parlait de la subjectivation des sujets, que je trouve très intéressant, c'est-à-dire comment les enfants peuvent devenir maîtres de leur propre réalité en fait. Et donc le graphisme citoyen, pour moi, c'est ça, c'est le jeune qui va se saisir des moyens graphiques qu'on lui fournit pour pouvoir s'exprimer sur des thématiques vraiment importantes.
On se permet aussi de revenir peut-être sur la question un peu de sentiment d'avoir perçu quelque chose qui était de l'ordre d'une démarche anthropologique, peut-être dans des choses qui... donc on l'a lu à travers du coup le texte de Pascal, mais c'est aussi quelque chose qui résonne peut-être chez toi, Valérie. C'est que à partir de, du coup, de faire recherche en commun, tu caractérises du coup ton attitude, la posture que tu adoptes dans ton travail à partir de trois qualificatifs qui sont impliqués, situés et contextualisés, qui paraissent assez proches en fait d'ailleurs dans ce que ces notions peuvent recouvrir. Donc pour situer, tu cites notamment Donna Haraway qui milite pour, je cite, les politiques et les épistémologies de la localisation, du positionnement et de la situation, où la partialité et la non-universalité est la condition pour faire valoir ces prétentions qui partagent de la vie des gens. La vue depuis un corps, toujours complexe, contradictoire, structurant et structuré, opposée à la vue d'en haut, depuis nulle part, est simple. Pour contextualiser, tu te réfères à une démarche écosophique. Et tu dis, la manière pour une recherche de s'engager, de rentrer en rapport, d'intégrer une situation, de s'acclimater à un contexte, deviennent des questions structurantes et instauratrices d'une démarche. Et puis impliquer, surtout quoi impliquer, et tu pars d'un exemple, tu pars de l'exemple de Jeanne Favre-Saada, qui lors de sa recherche sur la sorcellerie dans le bocage, fut parfois considérée comme ensorcelée, ensorceleuse ou désorceleuse. C'est-à-dire désorceler, c'est retourner le sort contre l'expéditoriste de ce sort. Et tu parles de cet exemple car c'est aussi une manière de dire que c'est nécessaire d'assumer que la recherche nous implique aussi malgré nous, qu'on peut se voir assigner un rôle, associé à des attentes, assimilé à une image. Et c'est une manière peut-être de dire que la recherche transforme, qu'il faut travailler avec ça. Ne serait-ce parce que la mise en commun, c'est un processus long dans lequel il faut s'exposer aux autres tout en étant attentif. Il faut affronter l'incertitude qui résulte de l'exposition des points de vue et il faut travailler avec ça. Donc, est-ce que le fait d'assumer de s'immerger suffisamment dans un contexte au point qu'une transformation mutuelle s'opère, c'est pas une démarche qu'on peut davantage qualifier d'anthropologique ?
Oui, non, c'est très juste. Ainsi, si je reparcours le propos là, que tu viens de développer, impliqué, c'est-à-dire que quand je suis dans mon travail de recherche, je suis affecté. Voilà. Et c'est quand même assez étonnant qu'on puisse mettre à distance ces affectations, alors qu'elles sont nécessairement actives en termes de pensée, en termes cognitifs, etc. Donc ça veut dire qu'à cet endroit-là, on a un travail à faire en tant que chercheur, qui est un travail d'explicitation. Et je ne dis pas qu'il est simple. Donc on peut le porter soi-même, c'est des choses qui s'éduquent. Je considère avoir éduqué cette capacité à réfléchir à mes implications, mais surtout on le fait collectivement. Et ça, c'est le cas, c'est l'importance des coopérations. Quand on revient d'un travail comme ça en recherche-action, avec Louis Starisky, avec Martine Bodino, etc., on passe des temps longs à échanger, et on échange à partir des ressentis. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé là? J'étais pas bien, je comprends plus, Bernard, c'était génial, c'était loin, etc., etc. Donc l'implication située. Mais quand je suis au boulot, je le suis en tant qu'homme blanc de 60 ans, statutaire. Mon statut, on le sent, voilà. Et puis avec des dimensions qui m'appartiennent. Alors je vais le nommer pour créer comme ça cette perturbation. Moi, j'ai une reconnaissance de travailleur handicapé. Mais j'ai un handicap qui n'est pas visible. Voilà. Et tout ça positionne. Et évidemment qu'il faut être au travail dans ces dimensions-là. Et là, ça affecte notre conception de la recherche. Notre conception de la recherche, elle est collective. Parce qu'il faut que l'ensemble des expériences liées aux rapports sociaux puissent être travaillées du point de vue de la collégialité de recherche. Et donc, des différences d'âge. Bon, je travaille beaucoup avec Louis Starisky, là, qui a 30 ans de moins que moi, donc ses effets de génération, avec Martine Bonimbo en tant que femme, Martine, trajectoire de fille d'ouvrier, etc., etc. Et comme l'université se reproduit un peu à l'identique, on a effectivement des angles aveugles. C'est-à-dire les personnes noires, les personnes arabes, elles sont très 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 peu nombreuses en termes de recherche. Et donc là, c'est la coopération avec les personnes concernées qui font venir cette richesse aussi de l'expérience des rapports sociaux. Et puis la dimension contextuelle, donc tu le soulignais très bien en termes écologiques et écosophiques, c'est-à-dire que la recherche en permanence est traversée par l'ensemble de la vitalité, de la réactivité d'un milieu de vie. Et donc la proposition qu'on défend fortement aujourd'hui, c'est de dire on ne fait pas une recherche sur un terrain, on développe des recherches depuis un milieu, partie prenante d'un milieu de vie, et donc avec tous les événements, les aléas qui peuvent se produire. Mais le propos est assez fort, affirmatif, mais il n'est pas grandiloquent. C'est-à-dire après, c'est effectivement, y compris dans une dimension tout à fait infime. Moi, j'ai un travail de recherche en cours qui est le jardin qui est associé à un centre social. C'est un centre social cité Péri à Saint-Denis. Ce centre social existe parce que les femmes du quartier l'ont voulu. Donc c'est une bagarre très, très forte. Il existe comme coopérative. Donc les femmes sont coopératrices comme la municipalité de Saint-Denis. Donc il y a un bâtiment qui était fortement habité. Voilà, c'est vraiment un lieu. Voilà. Et il y a le jardin qui est témoin. Voilà. Et donc je suis partie prenante en tant que chercheur de voir comment le jardin peut vivre avec cette présence de visibilité, cette présence de la visibilité des présences, des corps, de l'activité sous les fenêtres de la cité. Voilà. Et donc ça participe de ce travail-là. Et donc il y a des effets d'implication, des effets de patience. Voilà, j'y vais tous les mercredis matin. Voilà. Et j'y vais sans préalable. C'est-à-dire j'ai pas d'intention de recherche. J'ai pas d'objectif de recherche dans ce jardin. Si ce n'est que je sais qu'il est assez décisif et qu'il est en train de se passer des choses tout à fait essentielles dans la dynamique du centre social. Voilà. Donc y être, en être, et puis d'être en réflexivité un petit peu en permanence. Voilà. Si je devais me prévaloir d'un savoir-faire, peut-être une compétence, en tout cas longuement éduqué tout au long d'une carrière, c'est celle d'un effort soutenu d'explicitation. Expliciter, caractériser, voilà, parce qu'en permanence, on a besoin d'avoir cette attention et cette vigilance.
Mais en même temps, quand on fait le type de recherche qu'on fait, il faut être prêt à l'inconnu. Moi, c'est pareil, quand je rentre dans une école, j'ai une intention quelque part un peu, mais elle est tout le temps remise à sac, d'un atelier à l'autre, tout change selon la dynamique du groupe, comment ça se passe. Donc, je pense faire recherche dans nos domaines. Comment on veut la faire, la recherche, c'est se mettre en danger, être prêt à l'inconnu, à la surprise. Je pense que c'est ça aussi qui caractérise ce type de recherche-là, l'anthropologie, comme tu disais là. Mais je pense que c'est vraiment quand on s'intègre à un milieu qui n'est pas forcément le nôtre ou celui qu'on connaît, ben c'est nous aussi se remettre en cause. Puis je pense que c'est ça. Moi, c'est vraiment, je tombe dans l'inconnu, puis c'est cette surprise permanente qui est riche dans le type de recherche qu'on fait, surtout en design. T'sais, on arrive avec notre manière de faire, nos savoir-faire, mais ils sont remis en question et on apprend aussi de ceux avec qui on travaille.
Moi, je pense qu'on fait, recherche avec nos cris. Moi, je fais recherche avec mes colères. Il y a des choses qui sont absolument insupportables dans ce qu'on peut vivre en quartier populaire, qui passent par des grandes tristesses, qui passent par des joies. Dans nos séminaires, on pleure. C'est-à-dire que des jeunes chercheurs, des chercheurs, voilà, à l'occasion d'une restitution, d'une recherche, sont affectés, donc les larmes viennent parce que on est éprouvé dans ce moment-là et que ce moment d'émotion, il est constitutif de la recherche, quoi, voilà. Et donc c'est ce qu'il faut arriver à obtenir, que l'université, les institutions arrivent à réouvrir ces subjectivités, ces subjectivations qui sont aussi émotionnelles. Et là le parcours il est long, vu le type de formation. Moi, je suis typiquement dans cette génération qui a été formée, pour moi en tout cas, dans une idéalisation du geste d'écriture, de l'écrit, voilà, de la publication, au détriment, voilà, de tous les autres registres, de tous les autres possibles, et que j'aurais passé longuement le reste de ma carrière à essayer de réouvrir et de tirer à nouveau profit de tous les autres registres, voilà. Donc ces réalités-là, ouais, sont vraiment importantes.
Un autre exemple aussi, par exemple, moi par rapport à l'école, t'es, l'école c'est quand même très hiérarchisé, il y a une structure, tu rentres dans un programme, ce qui nous est arrivé, nous, c'est comme, ok, mais comment on va évaluer le travail des enfants dans nos ateliers, mais c'est pas ça le but. Mais donc tu te frappes aussi à des réalités contextuelles qui font qu'il faut t'adapter, puis que tu essayes de transformer les choses. Il n'y a pas juste l'université, il y a aussi les contextes dans lesquels tu travailles, sur lesquels il faut briser certaines préconceptions qui empêchent la recherche aussi.
Je trouve que ça permet de faire une bonne transition vers la question qu'on voulait évoquer maintenant. C'était comment ces espaces, comment ces environnements sont aujourd'hui menacés. Parce que du coup, toutes un peu les luttes à la fois intérieures mais aussi partagées que vous venez d'écrire existent et sont aujourd'hui, on va dire, en train de se battre pour exister. Et je pense que nous en sommes les témoins. On estime ici, en tout cas, nous estimons vraiment privilégiés de pouvoir travailler dans les conditions qui sont les nôtres, que nous avons décrites. Privilégiés de pouvoir travailler à questionner collectivement nos rapports à notre territoire, de pouvoir penser des démarches écosociales, d'expérimenter notre rapport au collectif et au commun. Ce cadre privilège, cette école d'art, on est désolé de le rappeler encore, est voué à disparaître, donc très prochainement. Donc, assistons-nous à l'intensification justement du grand démantèlement des pratiques du commun auquel nous assistons aussi par la coalition des forces conservatrices et réactionnaires. On aimerait aussi vous demander comment justement ces environnements de travail que vous venez de décrire sont selon vous chacun à leur place directement menacés par quoi et comment.
Alors dans le cadre de l'université, parmi les effondrements, il y a un effondrement psychique. Il y a une épidémie de burn-out, voilà. C'est-à-dire que les collègues sont en train de s'abîmer, voilà. Se mettre dans des niveaux de souffrance très, très élevés. Donc est-ce qu'à cet endroit-là, on regarde cet effondrement psychique, il y a une capacité à se ressaisir, à conscientiser et à se mettre à agir, qui passe, je crois, fondamentalement dans une capacité collective à faire la part des choses. C'est-à-dire, dans les contextes aujourd'hui de ces institutions, qu'est-ce qu'on laisse s'effondrer ? Genre, il y a des choses qui peuvent s'effondrer. Quelles sont les choses qu'il faut à tout prix tenir et conserver? Et puis, quelles sont les choses qu'on peut réengager? Quelle est la joie, etc. Et je reviens sur votre remarque tout à l'heure concernant le design et son arrivée à l'université. C'est précieux si le design assume aussi sa volonté de réinstituer l'université, c'est-à-dire d'y arriver, voilà, et à cette occasion-là, de provoquer des nouvelles choses. Et donc de permettre à cette institution aussi de bouger et d'évoluer avec vous. Ça me paraît indispensable. Donc sur le plan de l'université, après sur les lieux de vie dans lesquels à la fois j'habite, dans lesquels je travaille, bon, les cités, les quartiers populaires. les offensives sont violentes, les conditions de vie, mais les forces de résistance sont aussi extrêmement importantes. Donc on est sur cette ligne extrêmement troublante, extrêmement critique. Voilà. Et en regard de mon âge, voilà, la manière dont je vis les choses aujourd'hui, c'est à la fois, je prends la mesure des dangers fascistes, écologiques, etc. Et à la fois, je suis émerveillé des initiatives, des expériences qui sont en cours, des capacités dans la jeune génération à créer des collectifs, à inventer des autonomies, etc. Et donc on a deux puissances politiques, mais qui ne travaillent pas au même endroit. C'est ça qui est assez étonnant. Donc je ne sais pas comment ça va se formuler, comment ça va se construire politiquement. Mais il y a deux puissances, ça moi j'en suis assez convaincu. Je ne sais pas. Voilà, un petit peu. Je crois que tu l'évoquais précédemment. Sur l'idée de tentative, quand Louis Starisky l'introduit, c'est un petit peu en discussion critique par rapport à la proposition que je tiens depuis très longtemps, que sont les expérimentations. Il reproche aux expérimentations d'être trop solutionnistes. C'est-à-dire on expérimente parce que déjà on a à peu près l'idée de la solution, quoi, voilà. Et lui, dans sa génération, il a 35 ans, il considère qu'on n'est plus sur ce registre-là et qu'on est bien sur le registre des tentatives, avec effectivement de fortes problématiques, la tentative n'aboutisse pas, quoi, voilà. Et il va la chercher chez Deligny, parce que Deligny, en tant qu'éducateur, il travaille avec l'enfance perdue, l'enfance dont plus personne ne veut, les irrécupérables. Et Deligny dit, bah, puisqu'ils sont irrécupérables, c'est là qu'on va pouvoir tenter. Voilà. Et la tentative arrive dans ces endroits-là, qui sont dans des endroits de prise de conscience de la gravité. Voilà. Donc je pense que cette sociologie des tentatives vient nous inviter à tenter d'autant plus, effectivement, que le moment est particulièrement critique. Et la recherche-action, il y en a plusieurs lectures qu'on peut en faire. Donc il y a une lecture institutionnelle, on revoit les grandes figures, etc. Et l'autre lecture qu'a débusqué Louis Starisky, c'est que la recherche-action retrouve de la vitalité dans des moments critiques. Donc elle s'invente par des réfugiés qui fuient le nazisme. Voilà. Elle se réinvente en Amérique du Sud, Paulo Freire, face aux dictatures militaires. Et puis, à d'autres échelles, elle revient très fort dans des moments comme l'épidémie du sida, etc., où il y a une revendication, voilà, la recherche ne se fait pas sans nous, etc. etc. Donc la recherche-action est un révélateur, voilà, et elle se réengage, vous voyez, dans ces moments critiques. Quoi, voilà. Donc je pense qu'il y a une question, hein, qui concerne le métier, hein, de la recherche, c'est-à-dire comment on réfléchit à cet endroit-là, l'endroit dans lequel on est, et dans lequel, je crois, il faut être radicalement, quoi. Et je pense qu'il faut mieux être subjectivement dans les processus de subjectivation à cet endroit-là, plutôt que dans des formes d'effondrement psychique, hein, tel qu'on le connaît trop souvent. Mais ce n'est pas une stigmatisation, hein. Moi, je suis peiné, je suis attristé du nombre de collègues hyper fragilisés aujourd'hui.
Nous, c'est une réalité un petit peu différente au Québec. Bon, on a des gros problématiques aussi de coupure dans la culture, etc. Mais en fait, je pense que l'espoir, il vient par le développement de la recherche en design, justement, qui est très, très nouvelle, en fait, au Québec. Les études supérieures en design, c'est assez récent, d'ailleurs. Et donc, c'est une... Nous, je peux pas dire que nos collègues sont aussi mal au niveau mental chez nous, mais c'est je pense que c'est vraiment par une recherche, justement, action, recherche, la recherche création permet en fait au Québec actuellement de démontrer la force de nos disciplines, justement, dans un positionnement de recherche impliqué dans des contextes particuliers, comment ça peut aider aussi certaines communautés ou réfléchir sur certaines problématiques. Mais c'est une situation complètement différente que je peux pas comparer ici avec la France au niveau de ce que vous vivez au niveau universitaire. La fermeture d'une école comme ici, c'est complètement surréaliste. Mais nous, par contre, on a vraiment, depuis la Covid, en fait, une baisse importante des inscriptions des étudiants dans les domaines artistiques, en fait, que ce soit art visuel, design graphique. Ils choisissent d'autres types de métiers, et c'est plutôt ça qui est vraiment inquiétant chez nous. Des gens qui font de la recherche, des gens qui s'intéressent à des sujets super intéressants, il y en a plein, mais il nous faut des étudiants. Et ça, c'est plutôt plutôt ça qui est vraiment problématique actuellement, surtout dans un, je veux dire, un pays comme le nôtre où on est si proche des États-Unis. Je pense qu'il y a une grosse, grosse partie de l'angoisse d'un peuple qui s'exprime actuellement par une remontée du patriotisme, d'ailleurs, qui n'a jamais été vue avant au Canada à cause de ce qui se passe aux États-Unis, mais qui n'empêche qui, que ce soit dans les étudiants ou le peuple en général, les gens sont très, très inquiets. C'est comme si les gens étaient en attente de quelque chose sans savoir qu'est-ce que ça allait être. Donc, c'est pas très bon pour la recherche, c'est pas très bon pour les subventions de recherche, c'est pas très bon pour... Tout le monde est comme figé par ce qui va pouvoir arriver. Donc, c'est un peu où on en est actuellement.
Ça fait plutôt une bonne transition, si je puis dire, sur ces questions d'angoisse psychique. Pardon, j'en reviens là, puisque nous, on voulait conclure sur cette question de l'écriture affectée. Parce que nous, on l'assume, on a une parole affectée, parfois, la dernière fois quand on parlait de deuil, on tremble. La question aussi de l'écriture non académique, alors moi je dois faire une petite parenthèse personnellement. Merci, ton livre m'a décomplexé en tant que doctorant sur comment j'avais le droit d'écrire autrement. Parce que aussi, quand on parle des sujets qui nous animent, on est forcément affecté, et puis il y a des failles. Donc je me permets, je crois que c'est aussi cela que l'on fait à travers le cycle de rencontres « Comment bien fermer une école d'art ». Non seulement nous nous octroyons des moments de partage avec nos pairs afin de tenter une prise de recul sur la situation que nous vivons profondément et peut-être d'en saisir les multiples intrications épistémopolitiques, mais en plus, nous le faisons au cœur même de la situation, dans les instants les plus saisissants, comme je disais, qui nous tiraillent parfois. C'est une expérience enrichissante, mais qui parfois nous est très difficile. Et nous, on peut l'entendre dans nos voix qui parfois flanchent à évoquer la question du deuil, de la fermeture, du faire après, mais on assume également lorsqu'on évoque l'avant avec les étudiants, de ce qu'était l'école, des moments de lutte et des doutes que nous avons traversés. Il nous semble indispensable de faire état de tout cela, de faire état de ces doutes et de faire état de ces voix qui flanchent. De plus, le cycle est diffusé à chaque fois en direct à la radio, et merci à Dieu. Et nous partageons notre expérience, donc au-delà de nos rencontres autour de la table à 4 ou 5, au-delà de l'école, peut-être plus encore nos collègues en France qui aussi ont peut-être la voix qui flanche à nous laisser des messages. Et c'est ça aussi qu'on veut porter haut et fort, de dire qu'on a le droit aussi d'avoir nos failles.
Pour clôturer du coup cette quatrième rencontre, on voulait rappeler à toutes celles et ceux qui nous écoutent que vous pouvez nous appeler pour laisser un message sur notre répondeur. Je vous remets le numéro, c'est donc le 07 56 09 34 57. On n'a pas pu résister à piocher un peu au hasard et partager quelques messages que nous avons reçus ces dernières semaines. On souhaitait dire un grand merci à toutes celles et ceux qui nous ont appelés. Ça nous fait vraiment du baume au cœur. Et on les écoute avec attention. Pour rappel, on va les partager dans leur ensemble lors de l'événement des portes fermées le 27 juin. Mais là, on vous laisse avec une petite sélection à chaque rencontre.
Hello Valenciennes, j'appelle et je laisse un message. Mais des conseils pour bien fermer une école d'art, je pense que ce serait de faire la fête. Ce serait de faire la fête et de bouffonner, de faire les clowns, de faire du bruit et de disparaître le moins possible en laissant beaucoup de joie et en continuant à en donner d'ailleurs en sortie d'école. Voilà. Sinon, je vous envoie plein d'amour des Beaux-Arts d'Angoulême et plein de bouffonnerie pour vous inspirer lors de la fermeture.
Bonjour à l'École d'Art de Valenciennes et de Design de Valenciennes. C'est Sandrine Chamaret, je dirige l'École d'Art et de Communication de Cambrai, donc voisine. Nous sommes le 28 mars 2025 et je voulais laisser un petit mot. Pour vous remercier pour la journée d'hier à laquelle j'ai eu le bonheur de participer, donc le 27 mars, une des deux journées Folk Fever qui a incité à l'action collective, qui incité au partage, à l'actionnisme local, manuel, à la sauvagerie, à la joie, pour fêter le printemps et le renouveau. Donc merci à tout le monde pour la qualité de la programmation, du moment, de l'espace, de l'agencement. Tout est vraiment pensé et réalisé avec beaucoup de justesse et de générosité. À très bientôt.
Bonjour à toutes les équipes, aux étudiantes et aux étudiants de l'ESSAT de Valenciennes. Donc, je suis évidemment très, très, très solidaire de votre situation et toutes mes belles pensées vous accompagnent et tout mon soutien pour la suite de ce qui vous attend. À bientôt. Au revoir.
Bonjour, je m'appelle Antoine, je suis étudiant en école d'art à Caen. Et comme beaucoup, j'ai appris que l'ESSAT Valenciennes allait fermer cette année. Alors, je ne l'ai pas appris par le biais de mon école, ce que je regrette. Je ne l'ai pas non plus appris par le biais d'autres étudiants. Je l'ai appris via les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, le fait que les étudiants à Caen aient appris pour l'ESSAT n'a pas provoqué en fait de réaction particulière. Il n'y a pas eu de mouvement d'opposition, il n'y a pas eu justement une contestation qui s'est organisée. Et ça me semblait assez malheureux et nécessaire à dire, parce que je pense que dans ces moments-là, ce qui est évident, c'est qu'il est nécessaire de montrer du soutien. Donc voilà, sinon, comment on vient répondre à cette question comment bien fermer une école d'art. Moi, je pense qu'on ne devrait pas simplement fermer une école d'art. Le débat a déjà beaucoup été... j'arrive un peu après la guerre, le débat a déjà eu lieu, mais il me semble que c'est quand même assez... que c'est juste dégueulasse, en fait, de fermer un lieu comme ça qui participe à la production d'une culture qui se met autant en avant d'ailleurs, d'un État qui aime bien jouer là-dessus pour au final, derrière, mais ce qui a sans doute toujours un peu été la rançon des artistes, c'est-à-dire que dès qu'il s'agit de voir à quoi ça sert, la question est trop large, trop vaste, trop délicate et peut-être trop compliquée. Comment bien fermer une école d'art, je sais pas, mais peut-être déjà en souhaitant beaucoup de courage à celles et ceux qui vont devoir retrouver un emploi, que ce soit du personnel ou bien des professeurs, certains éléments de l'administration, et puis aussi soutenir les étudiants qui pourront plus se retourner et voir derrière eux une école qui continue à vivre, un endroit dont ils ont pu sortir, mais qui pourra toujours leur tenir un lieu de foyer. Donc voilà, ça aussi c'est dur, je pense, de ne pas avoir de lieu vers lequel se retourner. Donc du courage à tous. Voilà. Et puis voyez donc ce que l'avenir nous réservera.
Un opérationnel, trop bien. Voilà, à bientôt, au revoir, des bisous, ciao.
C'est ainsi que nous vous quittons jusqu'à la prochaine rencontre. On vous donne rendez-vous le 20 mai avec Lucille Bataille, Jérôme Dupéra, Xavier Dejarcy pour faire une cartographie de la crise nationale de la culture et des écoles territoriales d'art et de design. Nous parlerons notamment de l'organisation intersyndicale des écoles d'art en crise. Nous envoyons de la force aux collègues de l'ISDAT, l'École supérieure d'art, des arts et du design de Toulouse, qui regroupe l'École des beaux-arts, de musique et de danse, qui sont actuellement en grève, qui subissent un contexte d'austérité, budgétaire généralisée et une gouvernance dysfonctionnelle. Aussi, pour celles et ceux qui peuvent, il est possible de participer à la caisse de grève du personnel de l'ISDAT sur papayou-solidarité.com.
Et bien sûr, nous remercions Pascal et Valérie, chaleureusement, pour ce bel échange d'avoir été avec nous ce soir. On remercie évidemment à la technique Arthur et Thomas et toute l'équipe de DU, encore une fois et toujours. Et nous voudrions aussi en profiter pour remercier qui n'est pas là et lui souhaiter un bon vent sur le lac d'Annecy, à notre super comptable Caroline, qui a traversé toute cette période tempétueuse à nos côtés, toujours avec calme, bienveillance et un solutionnisme qui nous a été indispensable. Bref, Caroline, tu as rendu énormément de choses possibles malgré les restrictions et nous t'en remercions, tu vas nous manquer. On vous souhaite tous un bon 1er mai. Pour nous, ce sera la fête de la soupe à Lille. Et on vous quitte ce soir avec une chanson de Catherine Sauvage, La Grève. Belle soirée à tous et à toutes.
Tu paieras ta télévision avec tes gauloises manquées. Tu paieras ton lapin vison à la sociale sécurité. T'enverras des fleurs à ta mère avec le reste de tes soucis. Tu mettras de l'eau dans ton verre, le vin ça fout la maladie. Mais faut jamais, même en rêve, faut jamais faire la grève. Tu passeras à la fin du mois prier Notre-Dame des petits fours. Si par hasard tu n'as plus de croix, on te refilera une croix de secours. La prière, ça monte tout droit comme la fumée des hauts fourneaux. À moins qu'il y ait le vent qui passe par là, alors t'as prié pour la peau. Mais faut jamais, même en rêve, faut jamais faire la grève. T'auras du foin chez ton tabac, t'auras de l'avoine pour tes deux chevaux, en disant comme les Auvergnats, ces chênes que j'aime pour mon bestiau. Tu prendras ta femme dans tes bras, du moins ce qu'en ont laissé les gosses, que tu lui fais tous les 10 mois, faut bien 30 jours. Pour faire la noce. Mais faut jamais, même en rêve, faut jamais faire la grève. Quand t'auras le temps, t'iras voter en montrant tes papiers de souverain pour envoyer ton député faire les conneries que tu ferais bien. Si par hasard on ne fait savoir que le pain, le boulot, la liberté se sont fait faire sur le trottoir comme une gonzesse, t'auras gagné. Alors des fois, même en rêve, tu pourrais peut-être faire la grève.